Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Amis du café, amis de la police, amis de la route, c'était quoi l'émission de RTL, les routiers là? Ça vous dit rien,
non,
Daniel?
Non, je ne voulais pas, je pense à Automoto ou Turbo, mais...
Oh, ah oui, vous êtes plus jeune que moi, non, il y avait un truc de Max... salut les routiers, voilà, salut les routiers. Bon, bonjour à vous tous. Comment allez-vous, Nayel? Alors, comment je prononce votre nom?
Nayel Zaïter.
Nayel Zaïter. D'accord, ouais. Super. Les routiers sont sympas, voilà. Il y a des gens qui ont des... Voilà, ça vous dit rien, les routiers sont sympas?
Non.
C'est pas dans votre BD, c'est vrai,
non,
que c'est pas dans votre BD.
Non, je l'ai pas mis, ouais.
Ah, c'était une émission pour les routiers, les camionneurs, sur RTL, me semble-t-il, le soir de la nuit, quoi. Mmh. Et les mecs appelés, c'était avant la CB, quoi. Enfin, bon, bref.
Non, ce que j'ai là seulement, c'est Gérard de Suren sur Fun Radio, je crois.
Ah ouais, non, on n'a vraiment pas les mêmes rêves, on va arrêter là. Voilà, bonjour les rois de la route. La route, une histoire dessinée, magnifique, vraiment magnifique ouvrage de notre invité. À chaque page, une Madeleine de Proust. On est sur la route, mais on découvre la guerre. La fiscalité rendue facile par les pavés. On croise des R5 ou des Panhard. On découvre l'histoire du rail et de ses batailles pour notre confort. J'ai appris grâce à vous qu'un train que je prends souvent sur une vieille ligne un peu abandonnée, le corail, ça voulait dire quelque chose. Corail, c'est...
Confort sur rail.
Confort sur rail, on va en parler. Dans votre roman graphique, La route, une histoire dessinée, qui paraît chez Gallimard, Mazette, Nayel Zaïter retrace plusieurs siècles d'histoire de la voirie en France, des charrettes aux autoroutes, en passant par les gilets jaunes et les œuvres d'art monumental qui jalonnent nos trajets. D'un trait bicolore, le marron et le blanc des panneaux touristiques des autoroutes, vous révélez comment la route a façonné nos paysages, nos sociétés, et nos luttes sociales, puisqu'il y a une page outils de contestation dont nous parlerons allègrement, évidemment, parce que vous êtes au poste. Est-ce que cette petite présentation vous convient?
Ça me va parfaitement.
Ça vous va parfaitement. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous prend à faire? Alors d'abord, je dois vous présenter, parce que vous êtes quelqu'un de discret, vous ne vouliez même pas envoyer une photo pour qu'on fasse l'annonce de vous. Vous êtes fait connaître du grand public par une fresque monumentale d'un kilomètre à peu près.
Oui, c'est ça.
Qui clôturait le Grand Palais à Paris en reconstruction, enfin en rénovation. Mmh. Magnifique fresque et là j'ai compris, quand j'ai reçu votre bouquin, c'est votre style, quoi.
Oui. Ouais. C'est le même vocabulaire graphique, disons. Donc c'est une frise monumentale donc d'un kilomètre qui était sur les palissades du Grand Palais en chantier. C'était une commande que m'avait fait le Grand Palais pour avoir une œuvre le temps des travaux, le temps de la fermeture du Grand Palais. Et donc moi, les commandes, et comme là, pour ce livre sur la route, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est une contrainte qui me va parfaitement. Je fais à la fois du travail, un travail personnel dans le même style et un travail avec un sujet. Donc là, le sujet, c'était l'histoire du Grand Palais. Sujet un peu difficile, pas forcément très intéressant. Je m'intéresse à l'histoire, mais voilà, là, sur un bâtiment, il fallait trouver de quoi parler. Et donc, j'ai essentiellement parlé, donc forcément, de l'histoire du bâtiment, mais aussi de politique culturelle, d'histoire de l'art et comment tout ça s'agence autour de ce bâtiment qui est un symbole, une sorte de vitrine française du goût.
Est-ce que je me trompe ou il y avait un truc autour de 68? Non, il n'y avait pas.
Oui.
Il y avait un petit peu de CRS,
il me semble. Oui, bien sûr.
Ah, j'avais repéré ça, il me semble. Je ne sais plus ce que c'était. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé?
Il y avait plusieurs moments. Alors, je creuse certains moments qui me plaisent davantage. Alors, c'était pas tout à fait. C'était post-68. C'était en 72. J'ai le livre là, parce que c'est sorti en livre aussi, je pourrais vous le montrer.
D'accord. Ah bah allez-y, c'est le moment.
Je crois qu'il est encore sous blister.
Alors. Pendant que vous déblistez votre œuvre, il y a Berber Vénère qui vous demande si c'est vous qui avez également fait les panneaux de la basilique Saint-Denis.
Exactement. très au courant, ce berbère.
Eh ben, ce berbère vénère avait rajouté « Oh !» parce que je ne voulais pas dire avec l'accent, mais enfin, avec le, en prononçant « Oh !» avec trois H, c'est lui avec quatre I, donc un connaisseur et visiblement un amoureux de votre travail.
Enchanté.
Et donc là, vous allez nous présenter un autre livre, voilà.
Voilà, donc c'est ce livre.
La caméra est là, ouais, ouais, voilà.
Ce livre donc, sur l'histoire du Grand Palais. Qui est tiré de la palissade dont on parlait à l'instant. Et donc, le passage dont on discutait est celui-ci.
Voilà, c'est ça.
Qui est un passage assez amusant parce que c'est donc une expo, et il y a aussi des ponts avec la route. C'est donc une expo en 1972, plus ou moins commandé par Georges Pompidou dont on connaît l'amour de la voiture et des voies express dans Paris.
Absolument.
Sujet qui revient en ce Bien moment sûr. Également qui était connu pour avoir certains goûts, une certaine passion pour l'art et l'art contemporain, et donc qui voilà, sous le mandat duquel il y a une grande exposition au Grand Palais qui est censé représenter un peu le panorama de ce qui se fait en France en art actuel. Sauf que on est après 68, les artistes sont politisés, plus politisés que maintenant il me semble. On est en 72, c'est une époque avec voilà, on parle de maoïsme, il y a tout ce qui est les actions, le terrorisme post 68. Dans ce cadre-là, il y a un groupe dans lequel l'artiste le plus connu est Cueco,
oui.
Qui s'appelle Les Malassis, du nom d'un quartier de Bagnolet, Les Malassis, là où ils avaient leur atelier, qui expose une grande œuvre sur la Ve République. Dans l'expo, il y a, alors faudrait reprendre le livre, mais bon, ça ne se passe pas très bien. Ils décident de décrocher leurs œuvres. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a, des sortes de syndicalistes artistes qui décident de bloquer l'expo, les CRS chargent, les artistes décrochent leurs œuvres, et ça crée ce moment-là, moment raté de collusion gouvernement, monde de l'art. Donc, que j'ai voulu illustrer dans la fresque et dans le livre.
Prenons la route.
Voilà.
Vous êtes là maintenant pour cette nouvelle... alors, est-ce que vous dites roman graphique, bande dessinée, comment vous dites ? Là, je mets cette première image, l'usage de la route en France. Nayan, je te l'ai... Non,
ah,
là, je m'adresse à Nayan, à la Réal. Si tu penses qu'il vaut mieux laisser ça comme ça, moi, je peux tenir les pages. Si tu penses qu'il vaut mieux mettre le PDF, tu choisis, je verrai en fonction de ce que tu veux faire. Voici, ah, c'est peut-être mieux avec le PDF quand même. Voici une première image. Une première planche, l'usage de la route en France. Et je me suis demandé si le petit garçon qui jouait aux voitures, c'était vous. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Et quand on vous fait une petite commande, la maison Gallimard et autres, puisqu'il faut le dire, c'est en partie financé par Vinci. Hein,
en très grande partie.
En très grande partie. Ouais. Voilà, bon. C'est pas grave, le bouquin est top. Voilà, l'honnêteté commandait de le dire, mais maintenant on peut passer à autre chose parce que vraiment le bouquin est formidable.
Non, on peut en parler, c'est pas.
On pourra en parler quand
oui,
on viendra.
Des conditions économiques de la réalisation, c'est pas du tout un sujet qu'il faut passer.
On en parlera sur les autoroutes. Mais là, d'abord, est-ce que le petit bonhomme qui joue avec un tapis de voiture, est-ce que c'est lui qui vous inspire quelques années plus tard pour prendre la route ?
Alors, le tapis de voiture, c'est mon tapis de voiture d'enfance. Mais le petit garçon, c'est mon fils.
Ah,
c'est dans ce sens-là que je disais presque moi.
Ah, super.
Oui, bah, y a ce trait culturel qu'on a, je pense quasiment tous, d'avoir joué avec des petites voitures. Je trouvais ça important de le mettre... voilà, dans ce sens-là, parce qu'on a tendance à parler de culture de la voiture, par exemple, avec des sujets qui me fatiguent un peu, type la National 7, les belles voitures. Alors qu'il y a quelque chose de très simple, c'est voilà, de jouer avec quelque chose qui a quatre roues. Je trouvais que c'était plus fondamental comme trait culturel.
Mais est-ce que c'est un peu genré, la préoccupation routière ?
Sûrement. Sûrement, on en parle dans le livre à certains moments. Donc c'est quelque chose qui a tendance, je crois, à s'effacer. Plus ou moins, c'est-à-dire les femmes ont rattrapé les hommes, rattrapent en ce moment les hommes dans l'obtention du permis et dans la circulation en voiture. Les voitures sont moins genrées qu'à une certaine époque. Mais oui, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de très genré. Il suffit de voir une émission, les émissions dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Oui, là, c'est vraiment mec. Voilà. Hein, c'est vraiment... Oui. Alors, la route, elle commence comment ? À partir de quand ? Et là, je mets la planche numéro, page 18 et 19. La route démarre quand ? Vous avez besoin d'une anti-sèche ? Donc, je vous laisse
non,
regarder.
Je regarde en même temps, histoire de ne pas dire de bêtises.
Voilà, c'est celle-ci. Regardez. Nayel, le duo est parfait. Voilà, vous avez là la page. Alors, il y a la confection des routes. Au départ, le commencement, c'est le sentier. Hein, on peut dire à peu près ça, si j'ai bien
oui,
compris.
Oui, j'ai fait cet historique long assez rapidement. C'est vrai que le livre n'est pas très équilibré de ce point de vue-là. Mais ce qui m'a semblé important de dire, c'est que la route préexiste et survivra à la voiture. C'est pas moi qui le dis, ce sont les lectures que j'ai faites dans le cadre de mes recherches. Mais c'est vrai que c'était un point intéressant, parce qu'on associe très fortement voiture et route. Or, voilà, il y a le sentier, moi je parle des coulées de bestiaux, parce que je trouve ça assez amusant de relier aussi ça. Enfin, les animaux aussi ont des chemins. On part du sentier pour aller à la roue et très rapidement on parle de commerce et de guerre qui sont les raisons il me semble principales pour lesquelles on a vraiment bâti des routes. Donc la page s'appelle des routes solides.
Et d'une certaine manière le genre démarre un peu là, la guerre est quand même un truc assez masculin,
il semble
hein. Salut Donald Trump. Donc voilà, ça c'est extrêmement important, la route au départ c'est pour les marchands et les marchands de canons, on va dire.
Ça proportionne
ça.
La route, et ça lui donne sa solidité, son bâti. C'est-à-dire pour, et même maintenant, c'est-à-dire les autoroutes sont proportionnées pour le trafic de camions.
C'est ce que j'apprends dans votre livre.
Il n'y a pas de raison pour des simples voitures qu'elles soient aussi solides, aussi coûteuses. C'est pour les camions.
C'est ça, c'est les camions qui ont dimensionné en fait la largeur des voies d'autoroute.
Ouais. C'est assez intéressant.
Absolument.
C'est un livre sorti à La Fabrique, je crois, l'année dernière, qui est un livre très critique sur la construction de routes et d'autoroutes, qui parle de routes du libéralisme. De route du libre-échange, et je trouvais ça assez pertinent. Même structurellement, c'est une route du libre-échange faite pour que les camions circulent en France, en Europe, de façon très rapide, très fluide. Voilà, il y a aussi des choses raisonnées là-dedans, dans le dimensionnement. Mais...
Alors, petit point important, donc on va traverser les siècles, puisqu'on démarre, on est allé très vite, mais c'est 3500 ans avant Jésus-Christ. On va passer les voies romaines, mais tout de même, il y a une carte qui est très importante, hein, on voit que le centre de la Gaule, ça n'est pas du tout Paris, hein, c'est Lyon, en fait, enfin c'est Luc Dunum, et puis ça va devenir Paris. Et est-ce que ce sont les routes qui ont donné à Paris son côté capital ou pas ?
Alors, je serais incapable de vous dire ça. Il me semble que c'est des questions d'autorité et de commerce qui font que les routes, et voilà, surtout maintenant, partent en étoile de Paris. Mais à l'époque médiévale, les routes, ce sont les routes de foire, les routes de pèlerinage. Alors dans quel sens ça va ? Est-ce que ce sont les routes qui donnent les foires ou les foires qui donnent les routes ?
C'est l'œuf et la poule. Voilà. Voilà. Mais alors donc, là, on voit la page, la planche, page 20-21, qui est absolument magnifique, comme toutes les autres, mais celle-ci, particulièrement, je trouve, se déplacer au Moyen-Âge. Et là, j'aimerais, Nayel, vous faire parler de votre travail. Et évidemment, je pense que dans le chat, pour l'instant, personne n'a fait la ref, mais je pense que tout le monde comprend qu'il y a un trait très particulier que vous avez. Là, on ne voit pas bien sur l'écran parce que c'est plutôt noir, mais en fait, c'est un petit marron et blanc avec des lettres en majuscules. Vous dites d'ailleurs que c'est une spécificité française, la typographie en majuscule, alors qu'elle est moins lisible et que dans les autres pays, par exemple, les panneaux sont plutôt en minuscule. Nous, on est en majuscule. Mais en fait, vous vous inspirez d'un monsieur qui est suisse, qui s'appelle Jean
Widmer.
Et là, il faut en parler.
Jean Widmer, donc c'est l'un des plus grands graphistes français, suisse, européen, disons.
Ah, il est suisse.
Oui, non, il est suisse.
Ah, il est suisse. Et il est encore en vie, figurez-vous. Oui, je suis très informé sur la Suisse. Il est encore en vie, ce monsieur.
Non, quand je parlais de France, c'est son importance capitale. Voilà.
On lui doit notamment le logo de Beaubourg, oui. Par exemple, ah, là, ouais. de Pompidou, enfin du centre Pompidou-Beaubourg. Mais surtout, on lui doit des choses que tout le monde connaît. Tous les gens qui nous regardent connaissent. Ce sont ces panneaux d'autoroute, en fait.
Oui, hein. Ce qu'on appelle les panneaux marrons. J'aime bien le terme parce que marron est assez mal connoté en art. Les gens ont tendance à dire brun ou trouver des alternatives par snobisme. Mais marron, c'est très bien. Donc, c'est la signalétique culturelle qui est née dans les années 70, 72, 73, je crois. C'est un travail c'est une commande qui a été faite par des autoroutiers à Jean Widmer dans un souci d'animer l'autoroute. L'autoroute est morne, on s'ennuyer d'une part c'est pas très agréable, d'autre part ça peut être dangereux, et c'est ça qui a amené les autoroutes à commander une signalétique d'animation.
Je fais un saut. On est page 76. C'est juste pour montrer pour indiquer à la régie, page 76, où on voit l'enjeu touristique et économique de ces panneaux qui sont qu'on connaît tous et qui répondent donc à une logique très particulière, puisqu'en fait il y a d'abord c'est ici. Et c'est donc cette esthétique que vous allez reprendre dans vos pages, que vous allez reprendre, sous forme d'hommage. Hein. Ce n'est pas du plagiat, c'est vraiment de l'hommage. Là, on peut peut-être en parler un petit peu, parce que c'est au cœur de votre travail. Cette signalétique, elle est toujours en deux temps. Vous pouvez expliquer l'idée de légende, en
fait. À la première époque, oui. Donc, oui, la commande de Jean Widmer dans ces années 70, il crée... Donc là, on l'a sur la gauche de cette double page. Il crée des logos, des espèces de dessins logotypés qui représentent des choses d'intérêt culturel qu'il y a à voir dans les alentours.
Ouais.
Donc ici, il me semble que c'est une église et des vitraux. Donc en premier lieu, on a ces deux logos, on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence. Et une centaine, 100, 200 mètres plus loin, un autre panneau vient être, si vous voulez, la légende de ces logos. Donc là, c'est les vitraux du 13e et 20e siècle. Pendant ce temps-là, le temps d'avoir vu l'image et sa légende, on reste en éveil parce qu'on a vu quelque chose vaguement mystérieux. Ici, c'est peut-être pas l'exemple le plus mystérieux qu'on puisse avoir. Et on a la réponse un peu plus loin. Donc ça remplit ce rôle d'animation. Et d'autre part, c'est assez pertinent dans le cadre d'une œuvre, d'une image vue sur la route, ce qui est... Cette signalisation va changer au fil des années. Ce système va arrêter d'avoir lieu. Maintenant, on n'a plus que des panneaux simples. Mais c'est vrai que c'était utiliser le langage de la route de façon beaucoup plus riche.
Quand vous dites des panneaux simples, vous voulez dire par exemple comme celui de, en bas à droite,
comme celui sur la Beauce,
oui. Hein, où on a tout de suite la légende. Alors qu'effectivement, Berbère Vénère, décidément très, très, très en forme, nous dit « Ces panneaux m'ont fait voyager dans le voyage. Petite, je les guettais pour découvrir les monuments, le paysage. » Et en fait, c'est ce que vous nous apprenez, c'est qu'il y a une science paysagiste de l'autoroute, en fait. Et que ce que l'on voit, c'est jamais, quasiment, enfin... C'est une mise en scène du paysage.
C'est ça, ouais.
Vous pouvez raconter.
Alors, j'aurais
ça.
Aimé en faire plus là-dessus. C'est vrai que c'est condensé dans cette double page-là. C'est deux sujets très importants pour moi. Donc, juste pour revenir sur les panneaux, cette influence-là, elle est dans ce livre-là, mais elle est aussi dans les autres livres. C'est-à-dire que c'est vraiment une influence majeure, je pense, qui m'a amené à faire le dessin de cette manière-là.
D'accord.
Et donc, ces panneaux, ils servent à lire le paysage et à se placer géographiquement dans cette autoroute complètement artificielle, parce que si vous faites une autoroute, vous avez besoin de terrasser énormément de, je ne sais plus combien de mètres de large, mais c'est beaucoup plus que les simples voies sur lesquelles on roule. Ça nécessite des travaux de terrassement, donc quand il y a une colline, il faut ou la contourner ou la creuser. Tout ça très normé selon les normes des ingénieurs, avec des angles à je ne sais plus combien de degrés de chaque côté. Ce qui en fait un paysage encore plus monotone que de simplement passer, je ne sais pas, dans la Beauce. C'est presque encore pire, parce qu'il faut que ça soit très bien calibré. Pour plusieurs raisons, mais en partie, il y a toujours ce truc de garder le conducteur éveillé. On fait appel à des sciences, à de l'art, type le paysagisme, pour lequel, par exemple dans les jardins anglais, mais c'est venu en France un peu plus tard, on a cette idée de ne pas avoir de ligne droite, d'avoir toujours un vague tournant qui permet à l'œil d'avoir quelque chose sur lequel se reposer et pas l'infini, justement, des jardins français qui peut être assez...
Quand vous dites se reposer, non, pas tout à fait, si je vous comprends bien.
Non, justement, pas se reposer, mais avoir quelque chose...
À regarder, pour pas que ce soit trop monotone et qu'on reste concentré, finalement. Hein.
Pour pas s'endormir devant une ligne toute droite. Donc, il y a ce côté tout le temps sinueux. Qui est en partie pour de la sécurité routière. À ce côté sinueux, on ajoute, à certains endroits, c'est pas partout, des constructions de perspectives. C'est-à-dire, si on a tel village au loin avec un clocher et trois arbres qui font joli... on s'arrange pour les voir dans tel virage.
Bien sûr. Ouais.
Donc ça a été beaucoup développé par un artiste et paysagiste qui s'appelle Bernard Lassus, qui a travaillé avec les sociétés d'autoroutes en conseil d'aménagement, de paysage, mais même de petits aménagements. J'ai souvenir, par exemple, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, par exemple, pour un tunnel en banlieue parisienne qui est beaucoup trop bas, pour casser cette impression d'avoir le plafond qui tombe sur nous, trouver des solutions de casser les angles du plafond pour donner une impression de grandeur. C'est quelqu'un qui va réfléchir à des choses comme ça. Dans ce livre, je parle de quelque chose qui m'a pas mal amusé, c'est quand l'autoroute passe dans un sol rocailleux, qu'il y a des espèces de falaises sur le côté, que ces falaises ont l'air assez bien faites et qu'elles sont plutôt jolies. C'est parce qu'il y a eu la volonté, initiée par ce Bernard Lassus en question, d'écarter, pour creuser une falaise, on fait des forages, on dynamite, je crois que c'est à peu près comme ça.
Oui.
Quand c'est fait de façon un peu sans réfléchir, les forages sont très resserrés, on les voit, ça fait des traits dans la pierre. Quand c'est fait un peu mieux, les forages sont écartés, la dynamite a permis d'avoir les traits de la pierre. On met des sédiments du remblai au pied de tout ça, on plante des plantes du coin. Ça, tout a l'air assez normal, naturel, sauf que ça ne l'est pas du tout.
Absolument.
Donc on a recréé un paysage de falaise limite paléolithique ou je ne sais pas quoi, en bordure d'autoroute, artificiellement.
Alors, on fait un saut dans le temps, on revient dans le passé, nous allons aller en juin 1791, nous sommes page 22. Là encore, magnifique hommage au graphisme autoroutier, on va dire. C'est la nuit de Varennes, évidemment. avec et là, grâce à vous, j'ai compris comment le roi s'est fait avoir. En fait, on voit voilà, on voit donc à droite le l'itinéraire et en fait le malheureux, il a à 16h à Châlons en Champagne, des militaires alliés au roi devaient l'attendre à cet endroit, mais n'y étaient pas. Et donc à 20h, le maître de poste Drouet reconnaît un peu plus loin, hein, Sainte-Menou, le roi, ça on le sait, et à Varennes, la famille royale est arrêté vers 23h. On apprend, j'ai tout appris dans votre truc là, que le carrosse avait été fabriqué spécialement pour ça, etc. Cette page, par exemple, comment elle vous vient à l'esprit? Pourquoi vous vous dites les relais de poste méritent une double page? Comment s'opèrent ces choix?
Alors, la Révolution française, ça fait partie de mes sujets, des sujets que j'apprécie, et je vais un peu forcer pour trouver une excuse pour en parler. Et la fuite de Varennes, ça fait partie de ces sujets-là.
On aime bien les obsessionnels ici, voilà. Surtout ceux de la Révolution. Mais allez-y.
Dans le livre sur le vendéisme, il est question aussi beaucoup de ça, je commence à la Révolution. La fuite de Varennes, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler depuis longtemps, et là, j'ai trouvé l'excuse. Donc, on a cette image d'un Louis XVI un peu bébête. C'est quand même ce qu'on garde.
Oui.
Et je crois que c'est pas faux. c'est ça aussi qu'on peut apprendre là, c'est-à-dire il aurait très bien pu s'échapper de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus discrète, mais il lui a fallu le gros carrosse avec tout l'attirail, etc. Et donc c'était une fuite assez balourde, même s'il était rapide. Et là, on se rend compte que la rapidité... faut se rendre compte de ce que c'est la rapidité à cette époque-là. Donc là, je ne sais plus combien de temps il met pour aller jusqu'à Varennes, mais c'est 22 heures, quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, c'est ça. Attendez, je vais rechercher la page. On part à minuit à Paris et on arrive à 23 heures à Varennes.
Ouais.
Donc, c'est 23 heures, oui. Ils ont mis 22 heures pour parcourir 240 km en relayant 11 fois. C'est plutôt rapide.
C'est plutôt rapide pour ce type de chargement. Pour, voilà, il est aussi avec toute sa famille. Enfin, on aurait pu penser à peut-être d'autres façons de s'échapper. Je crois même qu'il y a eu des gens autour de lui qui essayaient de forcer pour qu'il s'échappe mieux. Bon, mais c'est pas plus mal. Et ça m'a permis de parler de ces relais de poste qui sont la façon de voyager quand on a les moyens à cette époque-là, d'aller un peu loin, de faire des trajets quasi directs, qui sont vraiment des changements. Donc l'État qui organise, enfin le pouvoir qui organise le transport. Ça donnera la poste plus tard, donc c'est assez marrant de voir les... C'est pas ça qui donnera les... Enfin pas tout à fait, le fonctionnement des autoroutes. Quoi d'autre?
Non,
j'avais
mais
quelque chose en tête, mais j'ai perdu le fil.
Alors écoutez, le temps que vous retrouviez votre fil, Supermanageman nous dit, lui, Louis XVI, lui, il n'a pas voyagé dans une malle.
Non.
Alors qu'il aurait pu, en fait.
Bah, celui qui a voyagé dans une malle, il a quand même réussi.
Et ben voilà,
ouais.
Il est moins bébête que Louis XVI. Alors, passons maintenant page 26. On fait un saut dans le temps. On arrive au début du 19e siècle. Qui dit route, dit transport en commun. Même si, donc, on comprend bien qu'au départ, la route est quand même réservée aux marchandises et aux soldats. Mais à un moment donné, elle devient quand même ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le moyen sur lequel on se déplace finalement. Et donc quand même arrive la question des transports en commun. Voilà, c'est cette double page. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'on voit en haut à droite, c'est qu'il y a en fait des allers-retours dans l'histoire de la route, si je puis dire, ce mauvais jeu de mots, puisqu'il y a des choses qui existent, qui disparaissent et qui reviennent. Je pense notamment là, le tramway.
C'est vraiment un sujet, ça aurait mérité un traitement, comme pas mal de sujets dans ce livre que je mets en petit, ça aurait mérité un plus gros traitement. Le tramway qui s'en va et qui revient, moi, il y avait un côté un peu frustrant quand on voit les images de Paris ou de villes françaises des années, je sais pas, des années 30 et qu'on voit tous ces tramways, on se dit, ah, mais c'était quand même génial. C'est pas tout à fait le même tramway qui est parti et qui est revenu. Le tramway qui est revenu, c'est un tramway, je crois que j'en parle là, mais on dit en site propre, c'est-à-dire qui évolue sur sa propre ligne, qui est beaucoup plus fluide, qui est moins encombré. Et c'est peut-être pas les mêmes volontés aussi politiques. Donc il y a forcément la volonté d'organiser le transport qui n'a pas changé. Entre-temps, il y a eu la voiture, le tout voiture qui a balayé tout ça. C'est sûrement le responsable, mais je pense qu'il y a aussi d'autres sujets. Mais il y a aussi, dans le retour du tramway depuis les années 80, des volontés de marquer politiquement à l'échelle municipale. C'est-à-dire ce sont des maires qui vont vouloir faire quelque chose de modernisateur avec une patte écolo. Et je pense que c'est très marqué aussi de ce côté-là, de volonté d'affirmer quelque chose à l'échelle municipale. Je ne sais pas si c'est exactement le même propos dans les années 30. Voilà.
Page, planche 28. Ah oui, je vous ai demandé, je vous ai peut-être demandé, puis j'ai oublié la réponse. Pour vous, ces bandes dessinées, ces romans graphiques, comment vous...
Moi, je parle de livres.
Parlez
c'est
de
plus
livres.
Simple. Ouais.
C'est bien. Alors, voici. Donc, la page qui suit, c'est celle, sur le transport des troupes. C'est donc le rail. Alors, je saute les planches, hein, mais il y a évidemment plein de planches sur le rail. Qu'est-ce qui est frappant dans cette page? C'est ce que vous écrivez. Alors, où est-ce que c'était? La vitesse, voilà, c'est tout en haut à gauche, en fait. La vitesse des armées n'a pas vraiment évolué entre les guerres de César et celles de Napoléon. En fait, c'est donc la voie ferrée, la route des trains, qui va faire basculer les armées dans ce qu'on appelle les guerres modernes, en fait.
Oui, c'est le transport de masse.
À la fois de masse et beaucoup plus rapide que à pied.
C'est quelque chose qu'on lit beaucoup dans les ouvrages qui traitent de ça. Donc c'est cette constante de vitesse entre César et Napoléon. En fait, le rythme de la marche, c'est un rythme qui a été dans le temps, qui a été beaucoup plus long que tout le reste. Et le train donc, a cette spécificité de pouvoir transporter de grands nombres de personnes. Et c'est un sujet, même à l'heure actuelle. Enfin, c'est-à-dire quand on parle de...
D'enfants dans les trains, vous parlez de la polémique.
C'est ça. C'est ça. Non, mais quand on parle de... Voilà, il y a moins de trains maintenant que dans les années 30, etc.
Oui,
la question, c'est aussi à quoi sert le train? Et le train, ça sert à trimballer beaucoup de gens d'un point A à un point B. Là où la voiture a pris le relais sur les trajets de peu de personnes vers des endroits disparates. Donc c'est ça. Là, on parle de transport de troupes. C'est aussi pour signifier que... le train a ce rôle-là de vraiment transporter des armées ou des masses de personnes d'une zone résidentielle à une zone de travail. Donc c'était ce sujet-là.
À la fin de votre ouvrage, vous donnez toute une bibliographie, vous sourcez tout ce que vous... d'où vient votre savoir, finalement. Mais avez-vous discuté avec, alors pour le train, la SNCF, avec, pour les autoroutes, les méchantes compagnies privées qui nous massacrent avec leurs péages, est-ce que vous avez discuté avec des automobiles clubs de je ne sais pas quoi, est-ce que vous êtes allé voir les paysagistes des autoroutes, par exemple, des gens qui s'occupent de la signalisation? Comment vous avez procédé?
C'est essentiellement par la lecture. Il y a quand même énormément de papiers, d'ouvrages universitaires, de tout type qui traitent du sujet, et aussi des rencontres. Donc ça, peut-être qu'on en parlera aussi dans le côté plus économie de l'art.
Oui, tout à l'heure, ouais.
Mais oui, donc le livre est une commande de Vinci Autoroute, à la base, qui me demandait un livre sur les transports. Au fur et à mesure des discussions, ça s'est mué en un livre sur la route. Et donc, via la rencontre que j'ai faite, leur rencontre, j'ai pu approcher certains universitaires ou ingénieurs, forcément dans leur réseau aussi, qui m'ont parlé de beaucoup de sujets techniques. Ce sont les sujets techniques que j'ai essayé d'aller prendre. Et après, eux, donc Vinci Autoroute, ont une fondation, think tank, etc., un peu plus large que sur les questions de route. Ils s'occupent mobilité, urbanisme, etc. Oui. Dans lesquels il y a aussi des gens intéressants avec lesquels j'ai pu échanger. Il y a un milieu qui réfléchit. J'ai pris ça, j'ai fait mes recherches, mes influences de mon côté. J'ai mélangé.
Alors, à propos de technique, j'aimerais qu'on parle d'un Écossais.
Macadam.
Voilà. John Loudon Macadam, page 36. Voilà. Alors, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui qui est à gauche, parce que celui qui est à gauche, c'est un cantonnier, c'est celui qui était chargé de l'entretien des routes. Et donc là, il y a effectivement un développement sur la technicité de l'enrober, de ceci, de cela. Alors là, pareil, ça revient assez souvent dans vos planches, parce qu'il y a une évolution. Mmh. D'ailleurs, vous nous dites que les voies romaines, c'est un peu du chiquier, ça, ce qu'on nous raconte. Que c'est...
Le plan de coupe des voies romaines avec toutes les différents types de pierres. Oui, c'était sûrement pour les villes un peu chic ou les centres-villes. Et sinon, c'était de la pierre avec du remblai.
Voilà, c'est ça. Là, on voit donc le revêtement qui s'adapte, parce qu'en fait, qui s'adapte à la circulation. C'est-à-dire que selon ce qui circule sur la voie, on ne va pas avoir les mêmes exigences d'élasticité, de robustesse, etc. Hein, c'est bien ça.
Oui. Forcément, il n'y a pas les mêmes besoins pour un sentier avec des gens qui marchent, un chemin avec des chevaux, des vélos, des voitures, etc. Et donc la technique du revêtement routier évolue avec la technique des outils de transport, des moyens de transport. Et il y a un moment clé, c'est le moment de la lutte contre la poussière. Ce qui est assez rigolo comme formulation. Mais en gros, le vélo arrive fin 19e, la voiture commence à arriver aussi par les mêmes biais. C'est ça qui est assez marrant, par à peu près les mêmes gens, il me semble.
Oui, c'est ça. Vous parlez de Michelin, de Dunlop, etc.
Donc les industriels sont les mêmes, mais je pense même les conducteurs peuvent être les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont été enthousiastes du vélo et les associations de conducteurs.
Peugeot, c'est d'abord un fabricant de vélo, si j'ai bien compris. Ça devient évidemment un fabricant d'automobiles. Les pneus, c'est pareil.
Voilà. Donc, c'est le chemin du transport de vélo, arrive la voiture. Et des luttes qui sont un peu similaires avec la lutte contre la poussière, c'est-à-dire c'est désagréable d'envoyer de la poussière partout et des petits cailloux. Quand on fait du vélo et quand on fait de la voiture, du coup, c'est des associations, des sortes de lobbies qui vont se former pour pousser... les collectivités, les pouvoirs publics, à enduire, plus ou moins, j'ai plus le terme, mais à répandre, dans un premier temps, du goudron sur les routes. Alors, il y a des solutions au début qui apparaissent, ils essaient de mettre de l'eau avec du gras, qui ne marche pas tant que ça, donc on essaye plein de techniques. Arrive le goudron, qui a du succès, qui se fait goudron qui est à base de charbon et d'éléments naturels, qui se fait remplacer rapidement par le bitume qui est à base d'hydrocarbures. Et du bitume arrivent les techniques qu'on a maintenant, ce qu'on appelle l'enrobé, qui est un mélange de granulats et de bitume, qui est directement répandu. Donc ça, c'est l'image qu'on voit sur la droite. Sur la droite.
Et alors, ce monsieur Macadam, Qui est-il? Qu'est-ce qu'il invente, en fait? Il invente le procédé du macadam.
Voilà. Le procédé du macadam, qui est une sorte d'enrobage de gravier. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est avec du goudron? Je vais reprendre la planche.
Ça n'est... Alors, des pierres de plus en plus fines sont déposées sur la chaussée. On développe des techniques d'empierrement. Oui, c'est ça, c'est des pierres.
Oui, voilà. Alors non, il n'est pas enrobé.
Il n'est pas enrobé,
c'est,
non.
C'est un alliage, oui, c'est un alliage de pierres bien pensées, étassées, qui permet d'avoir une solidité. Il y a aussi le... Là, alors là, on le voit, le côté légèrement bombé... de la route qui est repensée. Voilà, et le nom va rester parce que c'était un moment un peu charnière. Le moment où vraiment on commence à penser la route pour des charges lourdes et qu'elle soit relativement aussi molle pour qu'elle puisse... prendre le poids, les chocs, etc.
Je pense qu'il faut que vous teniez le micro plus près. Voilà, je vous en prie. Alors, ça nous amène à une question, notamment du chat de Florent Calvez, que je salue, qui est par ailleurs dessinateur, qu'on avait reçu ici pour son ouvrage Global Police, sur la police, qui demande, est-ce que c'est la route en France spécifiquement, ou on va voir ailleurs? Là, on vient de parler de Macadam, mais effectivement, vous vous centrez sur l'histoire de la route.
C'est la France, ouais.
En France. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et est-ce que ça veut dire que l'histoire de la route n'est pas la même selon les pays?
Vaguement. Il y a de la commodité pour la France. C'est-à-dire on circonscrit le sujet à quelque chose qui est... voilà, c'est aussi en langue française. Ça s'adresse à un public plutôt français. Il y a les références qui sont très françaises. Donc on parlait de Louis XVI tout à l'heure. Mais on parle aussi de Jean Widmer. C'est... J'inscris ce travail-là dans un cercle de référence francophone, mais peut-être aussi républicain. Il y a des choses qui sont propres à l'histoire de la République, donc comme la Révolution, mais le développement des routes, même si maintenant concessionnaires privés, etc., c'est quelque chose qui est lié à l'État, au fonctionnement de l'État. Et même à son histoire, on va dire, via les guerres, via le commerce, comment est-ce qu'on choisit de développer les trains ou les routes à tel ou tel endroit. Oui, il y a quelque chose de national, républicain.
Alors, à propos de République, la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, qui est créée dans les années 30, c'est la page 42-43. C'est une de mes préférées parce que c'est le train Corail dont je parlais tout à l'heure, hein, qui a un look absolument incroyable. Alors, je suis vraiment désolé parce que on voit pas le marron de... Alors, c'est peut-être l'écran, peut-être que chez vous, vous avez...
C'est pas la même chose en imprimé, en voilà. Écran. Là, on a les planches, dès qu'on passe, de toute façon, une couleur,
voilà,
une imprimante sur du papier, elle sort différemment.
Elle sort différemment. Alors, donc, il y a ce train Corail qui arrive en 75, donc vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire confort sur rail, mais ce qui est intéressant, entre autres choses, alors ça, on est... Nos visages cachent la petite légende, mais c'est pas grave, je vais la donner. En 75, la publicité pour le Corail titré la voiture qui va vous faire aimer le train, puisqu'il y a un enjeu de vocabulaire. La SNCF va essayer de dire, on va passer de wagon à voiture, ouais. Parce que c'est l'avènement de la bagnole, en fait.
C'est ça. Le train était mal considéré, c'est un peu des... Il y avait le côté bétaillère, surtout dans les... Peut-être dans les secondes classes, etc. On est mal assis. Il y a beaucoup de remous.
De vibrations, du roulis.
Il faut changer l'image du train. Être moderne, c'est avoir une voiture et faire tout en voiture, etc. Donc la SNCF s'est modernisée et il y a ce jeu sémantique autour de voiture-wagon. Qui nous paraît un peu normal quand on y réfléchit, on comprend pas trop pourquoi on dit voiture, Il semble que ça vient de là, voilà, d'une recherche presque publicitaire, commerciale.
De marketing, en fait.
De marketing de la SNCF, qui a changé de look, et justement qui a embauché, là, il y a le portrait de Roger Talon, designer, pour dessiner...
le logo, notamment, le logo de la SNCF, l'esthétique des trains, des corails.
Le orange et marron, donc on est aussi assez proche de l'esthétique du livre, hein. c'est pour ça qu'il y a quand même une proximité.
Bien sûr.
C'est les mêmes périodes.
Et alors, cette bataille sémantique, en fait, elle continue, puisque en 95, cette fois-ci, la SNCF change de slogan et nous dit « à nous de vous faire préférer le train », sous-entendu par rapport à la voiture.
Et là, on est vraiment dans la bataille train-voiture, bataille culturelle qu'on a en France à opposer les deux. Est-ce que c'est si pertinent d'opposer les deux ? Je ne sais pas, mais il y a ce jeu dans l'opinion publique. Et oui, en effet, ils jouent là-dessus. Ils ont créé le premier moment à parler de voiture pour parler de wagon. Ils réagissent à leur propre marketing.
C'est ça. Ouais. Alors, on fait un saut à la fois dans le temps et dans le lieu de la route. On quitte la voie ferrée pour retrouver le macadam. Nous sommes planche 50. Au début du XXe siècle, vous expliquiez très bien que l'automobile, en réalité, n'avait pas de réelle utilité. Les trajets se faisaient essentiellement à pied ou à vélo et que c'était un loisir, un marqueur social qui était réservé aux riches. Hein, et que, grosso modo, voilà, c'était du gadget. Et puis, ça va se populariser. Et en se popularisant, il va y avoir un certain nombre de problèmes, hein, avec le peuple toujours là, et notamment les accidents. Donc, ouais. Il va falloir créer le code de la route qui n'était pas au départ prévu. Et ça, vous le racontez, voilà, formidablement dans cette double page. Et il est appliqué, en fait, depuis, on va dire, maintenant un siècle. C'est-à-dire que ça va mettre quand même un certain nombre d'années avant qu'il y ait un code de la route. Sauf que vous nous expliquez que la priorité à droite, par exemple, est déjà établie au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a quand même des usages actuels de la route qui existaient avant le code.
C'est dans cette idée que la route préexiste à la voiture, et la route s'est adaptée à la voiture, s'est transformée pour la voiture, et dont les usages. Oui, la priorité à droite préexistait. Le tenir sa droite arrive à ce moment-là, et l'assise à gauche qui est nouvelle, pour le coup, parce que les cochers s'asseyaient de l'autre côté.
C'est ça.
Donc à droite. Oui, donc ces usages-là, ils mettent du temps à s'établir.
Alors, ce que vous n'avez pas dit, c'est que les chaussées étaient un peu bombées,
oui.
Et dans les charrettes, on se mettait à droite de rééquilibrer finalement l'angle de la charrette.
Plutôt au milieu, et quand on allait à droite, on risquait de basculer, en exagérant un peu. Donc, ce n'était pas forcément très
pratique. Est-ce une métaphore ce que vous êtes en train de dire ?
Il y a de ça.
Il y a de ça. Et alors, attendez, parce qu'il y a aussi, et là, ça commence à... Il y a de la castagne qui commence à arriver, là, si on peut remettre la page 51, où on voit qu'il y a un problème entre les piétons et les automobilistes, les richards de la ville, qui viennent emmerder, en fait, les campagnards. Ouais. Hein, là, c'est le dessin en haut à droite. Ça se passe mal au départ.
La voiture, c'est fait pour au début. Donc, c'est des gens riches, voire très riches, qui vont s'amuser à faire un peu du tourisme, des tours autour de chez eux, qui vont essayer de faire des voyages, des petits voyages, parce que c'est très dur et ça casse les voitures, les routes ne sont pas du tout faites pour ça, les pneus sont complètement rudimentaires, enfin les roues sont rudimentaires. Donc forcément c'est très mal vu, c'est des moments de basculement, mais comme on est un peu maintenant dans les grandes villes avec cet essor incroyable du vélo, les vélos, le code de la route ou de civisme en vélo un peu basculé, les gens qui s'énervent, les gens s'insultent, il y a des bagarres, enfin on en voit à Paris, autour de l'usage du vélo, des trottinettes, liées avec les piétons, etc. C'est des moments de bascule comme ça. Donc là, on quitte le cheval, tout le monde est habitué, et on arrive lentement à la voiture. Forcément, ça agace les gens. Il y a des histoires de faits divers, de caillassage, de gens qui tirent avec leurs fusils sur des voitures, voire sur des cyclistes. Donc oui, il y a... Et forcément, moi, c'est des choses qui m'amusent à illustrer, les moments un peu violents. C'est pas le livre le plus violent que j'ai fait, mais voilà. Donc ça fait aussi partie des brèches, le petit moment fait divers.
Voilà. On verra tout à l'heure, il y a une double page consacrée à la route comme outil de contestation. Alors, ça nous amène aux autoroutes. C'est la planche 56. Alors là, on va pouvoir parler, même si je pense que c'est pas central, mais quand même d'un de vos commanditaires, c'est-à-dire Vinci, qui est une des entreprises qui aujourd'hui exploite les autoroutes. Et je rebondis sur ce que Sentier Battant nous dit dans le chat. Il parle d'Ivan Illich qui dénonce comment les autoroutes et la voiture transforment le territoire en lacis de circuits fermés, rendant les distances inhumaines, excluant la marche, le vélo ou les transports collectifs. Politiquement, cela renforce la dépendance à l'État et aux industries. Opposer une mobilité autonome et locale, est-ce que vous intégrez ce genre de réflexion dans votre livre, bien qu'il soit une commande de Vinci, premier opérateur routier gérant 5000 kilomètres.
Alors, il est sujet d'Ivan Illich. Ouais. Un peu plus tard. Il est sujet d'Ivan Illich un peu plus tard dans le livre.
Dans le livre, absolument. Ouais. Mais il y a ce que vous appelez l'effet tunnel. Je retrouve pas le, mais qui répond à ça. Hein.
Sur l'usage des autoroutes.
C'est l'usage des autoroutes qui
répond.
Page
73.
73. Ouais. Et ben voilà, on va pouvoir le.
C'est vrai que l'autoroute, voilà, on peut c'est le très mettre. Pratique pour les gens qui habitent une extrémité ou l'autre ou près d'une sortie. Pour les autres qui habitent dans les 50 km entre deux sorties très éloignées, c'est un obstacle et c'est quelque chose qui déprécie vraiment qui empêche le passage et qui gêne.
Voilà.
Donc c'est ce que on appelle même en mobilité, en urbanisme, je crois, l'effet tunnel, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B très proche, on est obligé de faire un détour très long.
C'est
à cause de l'autoroute, pour favoriser le passage de gens qui sont eux-mêmes favorisés.
Et c'est, voilà, exactement. C'est le dessin qui est au milieu à droite, l'effet tunnel, juste à côté de... je crois que c'est une poubelle, hein, je ne me trompe pas.
Oui, c'est les grosses poubelles.
C'est les grosses poubelles des aires d'autoroute.
Des jetées depuis la voiture.
Voilà, c'est ça. Et là, juste à côté, vous mettez l'effet tunnel. Alors donc, allons-y, parlons de... parce que moi, au début, j'ai vu Gallimard. J'ai vu Gallimard Voyage, je me dis, oh, purée, c'est vachement bien, bah, super. Puis, en fait, je me rends compte que non, c'est Vinci qui est derrière... Donc ça veut dire que déjà, la maison de Gaston Gallimard travaille avec Vinci. Bon, bref, pourquoi un tel ouvrage qui nécessite, j'imagine, des mois, si ce n'est facilement une année de travail, pourquoi vous êtes obligé, pour publier, d'aller chercher finalement des financements de ce type-là? Manifestement, vous avez été laissé complètement libre. C'est pour ça que le livre est passionnant, donc on vous invite. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Ouais. C'est quoi la condition aujourd'hui d'un dessinateur en France?
Le livre, ça ne paie pas, ou presque pas. C'est des conditions assez quand même très mauvaises d'être illustrateur, que ce soit jeunesse, BD, etc. C'est, à moins de vraiment avoir du succès, c'est pas des choses sur lesquelles on vit. Moi, j'avais tendance... Je suis dans le milieu de l'édition, l'illustration, le dessin, également dans le milieu de l'art, art contemporain. Ce que je faisais pour l'instant, mon moyen de gagner ma vie, c'était en général de lier une commande, alors souvent dans l'espace public, on parlait du Grand Palais tout à l'heure, lier une commande avec un livre. Pareil, là dans le chat, ça parlait de la commande de Saint-Denis. C'est des institutions qui viennent me voir pour me dire, il y a un sujet, on aimerait que t'en parles avec cette façon, voilà, que j'ai développée de parler d'histoire, de faits sociopolitiques. Chose que j'avais développée dans un livre qui n'était pas un livre de commande sur l'histoire de France, sorti chez La Martinière en 2018, je crois. Donc cette manière a fonctionné, des institutions sont venues me voir, et c'est un modèle qui me convient très bien. C'est-à-dire, on me donne un sujet. Si le sujet me convient, je suis d'accord pour le traiter et j'essaye de tirer mon épingle du jeu et de faire quelque chose d'intéressant. Ça m'est arrivé qu'on me propose des choses inintéressantes pour lesquelles je n'arrivais
vous
pas
étiez cadenassé.
Cadenassé à devoir dire des choses que je n'avais pas envie
mais
de dire.
Mais quel est l'intérêt d'un groupe comme Vinci, par exemple ?
Vinci, ils viennent me voir suite au Grand Palais. Donc, c'était voilà, les palissades autour du Grand Palais. Beaucoup de gens les ont vus.
Ouais, bah ouais.
Et du beau monde, forcément, c'est sur les Champs-Élysées, etc. Ils voient ça, ils se disent... ils se disent, on a quelque chose à dire sur la place de la route. C'était sur les transports, globalement. Et ils voulaient peut-être un objet un peu lisible et populaire sur la route, avec quelle volonté. C'est pas très clair. Forcément, il y a l'idée d'avoir une bonne image.
Oui, c'est ça, quand même. De réhabiliter.
Oui, non, bien sûr, ça
de,
c'est.
De réhabiliter ouais. L'autoroute, enfin la route.
De réhabiliter l'autoroute dans cette bataille, peut-être aussi train-voiture.
Train-voiture, écologie, etc. Les usages.
Donc il y a cette idée de vouloir dire que la route est centrale dans la mobilité, et peut-être pas forcément la voiture, et de recentrer un peu le sujet, plus sur la voiture, mais sur la route. Et en effet, eux, c'est des gens qui construisent des autoroutes, qui font d'autres choses, etc., mais ils sont quand même connus essentiellement pour ça. Mm-hmm. Moi, on me propose ça, forcément. C'est la première fois qu'un gros groupe vient me voir de cette manière-là. Je me pose des questions et là arrivent les discussions de qu'est-ce que je fais, quelle est vous, votre marge de manœuvre intérieure. D'une part, c'est un sujet qui m'a plu de parler de route parce que justement, j'arrive à parler de plein de choses autour et c'est un sujet technique assez intéressant. C'est la première fois que j'ai travaillé vraiment sur un sujet d'ingénieur. Et ça m'intéressait de, voilà, de passer un an, un peu plus, à faire un long exposé sur ce sujet. Et d'autre part, en discutant avec eux, j'étais plutôt rassuré sur le côté... On peut avoir peur du côté très bourrin de ces entreprises. Et en effet, c'est des grosses boîtes qui écrasent tout. Mais dans la discussion qu'il y a eu avec moi, j'ai eu des gens assez...
Ben c'est le problème.
C'est
non, là, je vais pas vous laisser ouais. continuer parce que c'est compliqué après.
Non, mais il y a toujours ce truc-là. On oui. est avec des gens et tout se passe bien. Et donc, j'ai réussi à faire cette chose-là. Et moi, je veux pas cacher le côté.
Non, mais c'est pour ça qu'on en parle.
Si, et j'ai insisté même pour. Moi, par honnêteté, je suis prêt à le mettre. Devant, donc forcément pour des questions éditoriales.
C'est par honnêteté ou c'est un peu par gêne ?
Non, je ne suis pas gêné, moi j'en parle directement. C'est pour gagner sa vie en tant qu'auteur, vous savez très bien ce que c'est,
oui.
Et même en tant qu'artiste. Moi, je défends aussi les commandes dans le monde de l'art. Ce qui n'est pas quelque chose qui va de soi, mais d'accepter de faire une commande et que ce soit totalement honnête et d'en accepter les contraintes et de faire quelque chose de bien par rapport à ça. Je trouve ça très bien, mais ça va pareil dans le monde du design, de l'architecture, de la décoration, de l'art qui peut servir à de la déco. Donc là, c'est pas tout à fait mon sujet, c'est pas de la déco, je développe un propos, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut être gênant avec le commanditaire. Et forcément, il y a eu des discussions sur des sujets, il y a eu même des moments où le ton a pu monter. Mais c'est normal dans ce genre de travaux. Et c'était, si on veut, les contraintes du boulot.
Alors, il y a Florent qui dit « Je viens de voir le prix du livre. Gallimard et Vinci ne se mouchent pas du coude. L'auteur ne décide pas du prix. Hein, aucune acrimonie. » Effectivement, le livre...
C'est à 35 euros.
35 euros. C'est vrai que c'est...
C'est prix beau livre, on va dire.
C'est ça.
Ça, oui, c'est des discussions avec l'éditeur qui ont eu lieu assez tard. Je pense qu'ils ont vu l'objet que j'avais réalisé. L'objet, le PDF. Je travaille sur ordinateur, etc. Donc, ça avait encore une forme comme ça. Ils se sont dit, là, on va essayer de faire un beau livre, un peu précieux. Donc oui, c'est pas... Mais si vous voulez, c'est aussi le prix de, des gammes de livres un peu sciences humaines, architecture, urbanisme, qui sont un peu des beaux objets. Voilà, ça s'insère là-dedans. Effectivement, c'est pas moi qui choisis. Moi, je viens plutôt de l'auto-édition, et donc du livre pas cher, voire du fanzine.
Ça me plaît beaucoup. et là, Florent dit, oui, on est hors cadre par rapport au prix des bandes dessinées. Ouais. Le ça petit Vapophile précise 100 pages tout en illustration pleine page, reliée. Et Sentier Battant dit, c'est le prix de l'encre aussi, beaucoup de noir quand même. Je voudrais juste vous dire, il y a une page où je vous ai un peu pris en défaut. C'est page 61,
alors,
qui est très belle. C'est celle, comme toutes les autres, c'est celle sur les ronds-points.
Ouais.
Parce que là, je m'attendais donc sur les croisements, etc., la problématique. Et vous nous rappelez fort justement que la généralisation des ronds-points, c'est les années 80. Hein, c'est assez récent. Enfin, à mon échelle, c'est assez récent. Mais vous n'évoquez pas un point, alors, si je puis dire, essentiel, qui est celui de la corruption. Oui. Le rond-point a été quand même, dans les années 80 et 90, une des raisons pour lesquelles on les a vus pulluler, c'est que ça a été un vecteur de corruption absolument extraordinaire.
Ouais. C'est vrai que je ne me suis pas mis dans ces sujets-là, mais aussi sur... Il n'y a pas de corruption pour les péages, etc., mais de toutes les histoires qu'on a eues récemment sur voilà, les rapports de la Cour des comptes, etc.
Exactement, c'est ça.
Je ne me suis pas mis là-dedans. Il y a d'une part le cadre de la commande, il ne faut pas exagérer. Pour les ronds-points, non.
Non, les ronds-points, non.
Ouais. Ouais. Mais je me suis axé sur le côté technique la plupart du temps. Et j'ai pris les côtés sociaux quand c'était des choses historiques sur lesquelles j'avais plus de billes. On voit après les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. C'est vrai que là, j'aurais pu en parler. C'est des moments qui sont très raccourcis. Les ronds-points, y a un vrai sujet d'urbanisme.
Absolument.
Et de façon de concevoir la ville et de circuler. Qui est déjà énorme, et c'est vrai que je ne suis pas allé explorer du côté de la procédure, des commandes et de la corruption.
Alors, il y a des questions de Berber Vénère. Ah, rond-point et corruption, c'est-à-dire, je ne savais pas, je suis très intéressé. Il y a Gorogonzola qui nous dit, peut-on avoir un bref résumé des liens entre rond-point et corruption? Dans les années 90, fin des années 90, vous avez notamment dans l'Essonne un certain nombre d'hommes politiques, là je parle de mémoire, qui vont être condamnés, notamment parce qu'on se rend compte que ils vont, donc c'est les collectivités locales, qui vont activer un maximum de ronds-points avec le jeu des rétrocommissions, quoi, la corruption classique, on pourrait dire, du bâtiment, hein, qui est quand même le secteur corrupteur numéro un, en tout cas l'un des tout premiers. Et on voit d'ailleurs encore aujourd'hui des ronds-points avec des branches qui donnent nulle part, hein, c'est-à-dire finalement le rond-point aurait pu rester un croisement.
Je me suis fait avoir pas plus tard que il y a 2 semaines, je crois.
Voilà, vous êtes sorti, puis il y avait plus de route derrière. Voilà, ça donne sur un champ, par exemple. Bon, ça, il y a des gens qui ont fait le travail, il y a eu une facture et ça ne servait à rien. Et là, il peut y avoir interrogation. Voilà, c'est pour ça. Alors effectivement, Roland le dit aussi. Hein, il y a aussi un enjeu financier autour des ronds-points, c'est-à-dire que parfois, eh bien, une grande surface peut s'installer en finançant un rond-point par chez moi. Mais vous êtes tout excusé parce que arrive ce sur quoi je pense qu'on peut terminer ce bel entretien, les ronds-points, les gilets jaunes, la route, outil de contestation. Là, j'avoue qu'évidemment, s'il n'y avait pas eu cette page, je me suis précipité, hein, parce que je voulais voir, voilà. Et ça, c'est absolument magnifique. On voit donc, je vais essayer de te donner le numéro, Nayan, pour la régie, c'est page 81. Les opérations escargots, les opérations péage gratuit, le pavé, évidemment, emblème de 68, les barrages, les entraves, les barricades. Alors, d'abord, un petit peu d'histoire, c'est extrêmement important, ça se passe en haut à gauche. En 1588, il y a la journée des barricades. C'est Quelle est l'histoire des barricades ? Donc, la barricade ne peut exister que parce qu'il y a la route ou la rue.
Hein ? Et donc, l'idée de la bloquer. Forcément, en milieu urbain, beaucoup. Donc, cette journée des barricades, c'est pendant la guerre de Révolution. C'était pour illustrer l'ancienneté de cette forme. Je pense qu'on aurait pu remonter beaucoup plus loin, mais là, il y a un marqueur, il y a le nom, journée des barricades, qui reviendra. Donc, on a aussi les journées des la nuit des barricades de 68,
oui.
Mais aussi la semaine des barricades. Ce sujet méritait quasi un
La nuit livre, des barricades, je crois que c'est le 5 mai 68, la rue ouais. Gay-Lussac qui est
Et la semaine des barricades, c'est en... Est-ce que c'est en mai c'est pendant la révolution algérienne, donc les pieds noirs et les militaires séditieux qui font des barricades à Alger. J'aurais dû le mettre, je regrette. Et donc cette forme de barricade, je parle aussi d'entrave, voilà, c'est une forme aussi, donc là on disait tout à l'heure de circonscrire la France, je parle de la France, de son histoire et de son histoire contestataire à travers cet objet de barricade ou d'entrave, entrave agricole. C'est amusant de relier les deux.
Absolument.
Parce que bon, il y en a une qui est urbaine, l'autre qui est plutôt rurale, mais c'est relativement les mêmes procédés. Bloquer le commerce, bloquer l'approvisionnement, bloquer la circulation et générer du conflit pour être visible. Je vais rapidement faire un saut à la fin, mais il y a cet objet... la palette qui est centrale dans les contestations actuelles, mais aussi dans la mobilité globale. Et donc, ces contestations font partie du vocabulaire de la mobilité. Alors, soit elles ont comme sujet la mobilité, comme par exemple les gilets jaunes ou les bonnets rouges, soit elles utilisent la mobilité comme objet, comme support. Donc, mai 68 qui prend les pavés, les guerres civiles françaises et révolution 19e qui utilisent la rue comme support de contestation, voire les émeutes de banlieue. Donc il y a ce double rapport. La palette, elle fait le lien. Le pavé le fait aussi, mais la palette le fait mieux, fait le lien entre la contestation de mobilité et la contestation qui utilise la mobilité. C'est-à-dire la palette, sa taille est faite en fonction de la taille d'une route, si on exagère un petit peu. Elle doit rentrer dans un camion, le camion dimensionne la route. La palette a vraiment une dimension qui est faite par rapport à la route et un matériau, etc. Et c'est d'autant plus marrant de voir ce qui en a été fait à l'époque des Gilets jaunes. Donc là, je renvoie plutôt au livre du vandalisme, où on parle de, à la fin...
Alors voilà, ça c'est un autre ouvrage que vous m'avez apporté, ouais. Que vous avez co-édité.
Auto-édité.
Auto-édité aux éditions Comprendre, c'est ça ?
Ça, c'est mes éditions, c'est un peu voilà. Un nom, ça sert aussi de nom d'artiste, on va dire. Alors c'est des éditions qui n'éditent que moi.
Je découvre cet ouvrage que je vais lire avec évidemment passion, mais j'avais été interloqué évidemment quand j'ai vu votre bibliographie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce livre, etc. Voilà, il est là, ça reprend effectivement. Hein, on voit bien que c'est votre style, c'est votre art. Alors c'est un livre qui est plus petit. Histoire du vandalisme illustré en France de la Révolution à octobre 2019. Hein, c'est le, ouais. L'intitulé de cet ouvrage. Et donc,
alors, à la fin de ce livre-là, mais pas très loin d'une page, de la page où vous étiez, il est question donc, des ronds-points des Gilets jaunes et des constructions artistiques, un peu avant... Non, de l'autre côté. Des constructions artistiques qui ont été faites, donc en particulier sur le rond-point du Canet des Morts dans le Var, où les Gilets jaunes refaisaient des monuments,
oui.
Type Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Pyramide du Louvre, en grande partie en palette avec des éléments de récupération, etc. Et ça créait des moments assez intéressants. Donc là, dans ce livre, il est question de vandalisme. Je commence le vandalisme des Gilets jaunes par cette affaire de l'Arc de Triomphe avec la prise de l'Arc de Triomphe, le saccage assez minime qui ont eu lieu à ce moment-là, mais autour desquels on a fait un foin pas possible.
Oui.
Donc c'est des moulages qui sont cassés, rien de très très grave, mais symboliquement c'était assez important. En réaction à ça, des Gilets jaunes vont vouloir un peu montrer que eux ne sont pas des vandales. Vandales, c'est quand même très mal connoté. Voilà, vous montrez qu'ils sont responsables, qu'ils savent tenir en rond-point, que tout va bien, que eux, leur contestation, c'est quelque chose d'assez bien fait. Et en effet, il y a des ronds-points qui ont tenu très longtemps, sans problème majeur. Et donc là, il y en a qui vont à plusieurs endroits, hein, je me concentre sur le Calais des Morts, qui vont construire des monuments en palette, donc essentiellement Arc de Triomphe. Ces monuments vont être amenés à être cassés par les autorités, ce qui va amener l'autorité à en fait détruire, à faire la même chose qu'on accuse les gens d'avoir fait à l'Arc de Triomphe. Et donc il y a ce renversement un peu dialectique qui est assez, assez marrant autour de la palette.
Alors justement, il y a le chat, et ce sera peut-être la dernière question, quoique je voulais d'abord remontrer, peut-être que ça fait partie des discussions un petit peu tenues avec un de vos commanditaires. Vous avez, donc ça c'est la planche page 81, les écureuils de l'A69, hein, à qui vous, d'une certaine manière, vous rendez hommage, qui donc des manifestants qui, perchés dans les arbres, bloquent la construction. Ah bah oui, mais on le voit pas, c'est à droite. Il faut que tu m'enlèves. Il faut que tu m'enlèves, Nayan. Il faut que tu enlèves. Voilà. On voit les écureuils de la 69 qui sont là. Et là, évidemment, ce n'est pas des camarades de Vinci, mais ce sont les nôtres. Bref, le chat nous demande, et ça rejoint ce que vous disiez, il faut qu'il parle de la main jaune.
Ah ben, la main jaune, c'est la fin de
celui-ci.
De l'histoire du vandalisme.
Voilà.
C'est quasiment le sujet qui m'a convaincu de traiter du vandalisme.
C'est ça ?
Ouais.
Voilà.
Alors, c'est dans le chat qu'il y avait cette...
C'est la vignette 78,
ah, okay.
Voilà, qui nous a dit « Il faut qu'il parle de la main jaune ouais. ». Mais c'était avant qu'on parle de l'histoire du vandalisme.
Okay.
Donc, voilà, c'était...
C'est un sujet de rond-point, c'est à propos des ronds-points,
c'est ça.
La main jaune. Donc, la main jaune, c'est une énorme œuvre qu'on peut appeler œuvre de rond-point, mais si ce n'était pas forcément sa destination initiale. À Châtellerault. Donc c'est une main de plus de 20 mètres de haut, un avant-bras et une main complètement jaune, desquelles descendent des voitures, donc c'est des voitures taille réelle, des voitures qui sont collées à cette main, à cet avant-bras.
Voilà, là on voit sur la droite, ça c'est la sculpture, et ce que je montrais tout à l'heure, c'est la sculpture qui est en feu. Hein,
ouais.
Voilà. Donc là on voit sur la droite la sculpture, une main jaune, avec des bagnoles.
Et donc, ça condense beaucoup de sujets dont on a parlé, dont ces ronds-points, et pas la corruption, mais les critiques qu'on fait de financement des ronds-points, il y a souvent la critique de l'œuvre qui est au milieu. Ah, c'est moche, ça a coûté combien, etc. Et là, cette main jaune, elle condense tous les objets de détestation pendant un moment, c'est-à-dire, ça a coûté combien. Il se trouve que c'est un artiste de lui-même qui a levé des fonds pour produire ça. Et ce n'est pas un truc qui a été commandé par la collectivité, etc. Il y a quelque chose qui sonne faux dès le départ. C'est une œuvre qui se veut hommage à l'industrie automobile de Châtellerault. Châtellerault qui était frappé par des fermetures d'usines à la même époque.
Mmh.
Donc là aussi, il y avait quelque chose qui sonnait un peu bizarrement. Et après, c'est passé à la télé comme le rond-point le plus moche, de façon un peu, pourquoi pas, mais un peu snob. Je sais plus, je crois que c'était sur Quotidien. Enfin, donc il y avait cette image-là de trucs pas terribles, ratés, qui est discutable. Viennent les Gilets jaunes, et en fait, on se rend compte à ce moment-là que cette main jaune, c'est un signe de ralliement. C'est-à-dire ça sert de ralliement à tout le monde, c'est le plus gros rond-point de Châtellerault qui sert de camp. Et au moment du délogement des Gilets jaunes par la police, il y a, alors on ne sait pas, il y avait une enquête, il y a le feu qui est mis aux alentours par justement ces palettes. Le feu est mis aux palettes, la main jaune qui est dans une espèce de résine va brûler en entier, être complètement détruite. Alors qui a mis le feu, est-ce que ce sont des gilets jaunes qui se dédouanent de ça? Est-ce que ce sont des provocateurs? Est-ce que ce sont des petits malins à côté qui ont voulu dégrader, vandaliser? On n'a pas la réponse, mais je trouvais le sujet très intéressant parce qu'il condense plein de critiques, justes ou fausses, sur l'art, sur la commande publique qui n'en est pas une, sur l'urbanisme et sur ce truc qu'on aime. Une fois qu'il est brûlé, on se dit « Ah, c'est dommage dans le mouvement des Gilets jaunes sur un rond-point. » Je trouvais ça central.
Eh ben, merci beaucoup. Je voulais vous demander, Nahiel, deux petites choses. On a deux questions rituelles. La première, c'est est-ce que vous avez un conseil culturel à donner? Alors, ça peut être un livre, ça peut être un disque, ça peut être un film, ça peut être tout neuf comme très ancien. Voilà, quelque chose que vous aimeriez partager. Voilà, quelqu'un les gens qui vous ont écouté, qui vous ont apprécié, peut-être pourront aller chercher autre chose grâce à vous. Est-ce que vous avez quelque chose en tête, votre dernier bouquin que vous avez lu ou...
Dernier bouquin là comme ça à conseiller, je sais pas. Non, je pense au film d'Yves Boisset.
Ouais.
Je pensais à ça dans le côté un peu enquête, polar social. C'est des choses qui peuvent être un peu proches de, je sais pas si c'est la démarche, mais de l'univers que je convoque, de traiter de sujets et d'essayer de trouver des petites brèches à l'intérieur.
Pas mal, Yves Boisset, pas mal. Je vais vous poser la question rituelle. D'abord, je donne rendez-vous à tout le monde demain à la même heure, à 9h, à votre place. Il y aura Amandine Gay, réalisatrice, comédienne, afro-féministe. Et ça va barder, ça va être super. Elle sera là demain à 9h. Et maintenant, la question rituelle, qui sera le mot de la fin pour vous. Que faire? Que faire aujourd'hui?
Je ne m'y attendais pas. Que faire? Bah, faire des choses. Il faut faire des choses... par l'écriture, par le dessin. Je pense que... est-ce que c'est quelque chose qui manque dans le monde de l'art? Je parle de... pas forcément de l'édition ou de la BD, parce que c'est assez présent, mais plus dans le monde de l'art contemporain, je sais pas si c'est de l'engagement, mais de parler de sujets précis, de sujets de société, de sujets politiques, historiques. Je trouve ça... important et utile que les artistes s'emparent de ces sujets, même dans des sphères. On parlait tout à l'heure de 72 et des expositions au Grand Palais. C'est vrai que c'est une époque où, quand on voit ce qui se passait dans le monde de l'art français, on se dit « Ah, c'était quand même un peu plus vivant, un peu plus... il y avait plus d'action qu'aujourd'hui où les polémiques sont relativement restreintes, même s'il y a eu tout ce qui est mouvement MeToo, etc. Je pense que ça pourrait aller un peu plus loin et parler plus politique société dans le monde de l'art. Et je vous remercie.
Merci à vous.
Mes amis, nous sommes sur Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous. Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste, il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, pardon, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don ?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Oh, bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.